Voilà, bonjour à tous. Si vous nous entendez bien, si vous pouvez juste lever la main pour qu'on sache si vous nous entendez. Ok, très bien. Merci Seigneur. On bénit Dieu qui nous donne cette opportunité. Comme on l'a dit depuis dimanche dernier, on veut reprendre, mais tout doucement, avec prudence et sagesse. Et Dieu nous donne de marquer ce dimanche de Pentecôte en étant avec une petite équipe, comme Teddy l'a dit, dans notre lieu de culte, bien sûr en prenant toutes les mesures nécessaires pour que le respect des règles d'hygiène soit observé. Mais en tout cas, c'est une joie pour nous, hein, en ce temps spécial de Pentecôte, de pouvoir être là, dans notre lieu de culte, avec cette équipe qui nous a conduits dans la louange. Ils ont été là avec nous tout le long de ce confinement, chez eux à la maison, nous conduisant dans la louange, que ce soit Eric Zali et sa famille, que ce soit Stéphane Refortel, que ce soit Teddy. Tous les trois nous ont édifiés depuis chez eux. Et aujourd'hui, on essaie de revivre la louange comme nous la connaissions, mais voilà, avec aussi quelques peut-être désagréments de la technologie. Pentecôte, c'est un événement marquant de notre foi. Depuis quelques semaines, disons depuis 50 jours, nous sommes marqués par des événements très forts de notre foi. C'est pas juste une commémoration historique de ce qui s'est passé dans l'histoire. Heureusement que ça se passait dans l'histoire, c'est-à-dire que ces faits sont des faits vrais. Dieu a agi, Dieu s'est manifesté, Dieu a été présent dans l'histoire de son humanité. C'est lui qui nous a créés et il est avec nous dans cette histoire humaine. Et nous pouvons bénir le nom de notre Dieu. Donc ces événements qui sont historiques sont là pour nous attester de la véracité de notre foi, de la vérité de ce que nous croyons. Car ce que nous croyons n'est pas le fruit d'une imagination, aussi féconde soit-elle, elle est le fait de l'histoire du Dieu qui intervient dans l'histoire des hommes. Pâques, Jésus-Christ, mort à la croix, en rançon pour nos péchés. Troisième jour après la Pâque, ressuscité d'entre les morts, victoire sur la mort. Celui qui était sans péché a été manifesté victorieux de la mort pour nous. Désormais, c'est notre prémisse, celui qui nous précède dans la résurrection. Ascension, vérité qu'il était Dieu, il est reparti auprès du Père. Sainte Trinité, Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Symboliquement, la Bible nous dit qu'il est assis à la droite de Dieu le Père. Cette droite, nous avons eu l'occasion de le dire, c'est le symbole de l'autorité. Christ règne, bien-aimé. Jésus règne. Et pendant ce moment particulier que nous avons lu dans les Actes des Apôtres, quand Jésus donnait cette dernière consigne aux apôtres, la Bible dit qu'il s'est élevé et qu'il a disparu en étant élevé dans le ciel. Il a disparu à leurs yeux, n'est-ce pas? Mais il avait dit une chose forte. Il avait donné une promesse. Il avait dit, restez à Jérusalem jusqu'à ce que ce que mon Père a promis vienne. Jésus, dans l'histoire de l'humanité, intervient de façon stratégique dans les grandes fêtes que lui-même, Père, Fils et Saint-Esprit avait données dans l'Ancien Testament d'Israël. C'est pas inopportun, c'est pas un hasard que Jésus soit mort à la Pâque. C'est parce que Dieu a voulu marquer la nouvelle Pâque. La Pâque ancienne était cet agneau, cet animal qu'on sacrifiait. Et la Pâque nouvelle, c'est Jésus qui donne sa vie. Il marque cette Pâque en donnant sa vie ce jour-là. C'est pas un fait du hasard que ce soit à la Pentecôte que Dieu, avec le conseil du Fils, décide que le Saint-Esprit vienne habiter sur la terre. La Pentecôte, c'est une autre fête de l'Ancien Testament que Dieu avait donné au peuple d'Israël pour marquer leur reconnaissance dans ce que Dieu fait dans leur vie quotidienne, leur reconnaissance de leur activité agricole. Ils venaient remercier Dieu, les prémices de la moisson. Ils venaient aussi célébrer Dieu pour le don de la loi, n'est-ce pas? Et toute cette fête est symbolisée aujourd'hui dans la foi chrétienne par la venue du Saint-Esprit. Saint-Esprit marque sa présence perpétuelle par la fête de la Pentecôte. Je vous invite à lire quelques textes bibliques. Jean chapitre 16. verset 5 à 14. Jean, chapitre 16, verset 5 à 14. Et c'est Jésus qui parle. Vous savez qu'à partir de Jean, chapitre 16, 17, Jésus donne, en quelque sorte, ses derniers vœux, ses dernières volontés, ses dernières promesses aux apôtres parce qu'il va partir. Verset 5 de Jean, chapitre 16. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande, où vas-tu? Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père, et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Voilà comment Jésus avait préparé les apôtres, les disciples et l'Église tout entière à son départ, mais aussi à la venue de l'Esprit. Voilà ce qu'il déclarait par rapport à ce Consolateur, l'Esprit de Dieu. Et l'événement dont Jésus avait parlé, cette promesse qu'il avait dite à ses disciples en Actes chapitre 1, va se réaliser. Souvenez-vous que dimanche dernier, nous avions eu cette conviction sur la base de la parole de Dieu que ce que Jésus dit s'accomplit toujours, s'accomplit avec certitude, s'accomplit parce qu'il est Dieu et qu'il ne se dédie pas. Il leur avait dit, restez à Jérusalem jusqu'à ce que le Consolateur, l'Esprit Saint, vienne. Et en ce moment-là, il vous environnera d'une présence particulière, et cette présence vous donnera encore un zèle nouveau dans la foi, mais bien plus dans le service. Et nous allons voir si cela s'est accompli. Actes chapitre 2, à partir du verset 1. Je vais faire une lecture, et quelquefois je sauterai quelques versets, à dessein, bien sûr. Donc si vous suivez avec moi vos textes dans la parole de Dieu, ne soyez pas quelque peu déstabilisés si vous ne m'entendez pas lire quelques versets. Dans ce paragraphe de Actes chapitre 2, versets 1 à 42. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle ?» Ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Alors Pierre, chapitre verset 14, alors Pierre se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes, « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la troisième heure. » Dans d'autres versions, il est dit, il est que 9h du matin. C'est la troisième heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs, sur mes servants dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Verset 21, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Verset 22, Jésus de Nazareth, cet homme, verset 23, livré selon le dessein arrêté et selon la précieuse préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Verset 32, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Verset 33, élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il a répondu comme vous le voyez et l'entendez. Verset 37, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dit à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferions-nous ? Que ferons-nous ? » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Verset 40, et par plusieurs autres paroles, il conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Verset 42, enfin, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans la prière. Amen. Voici le témoignage de l'Écriture, si ce qui s'est passé. Jésus leur avait dit, restez ici jusqu'à ce que vous soyez visités, vous viviez une expérience forte de la venue de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, troisième personne de la Trinité, était déjà, parce qu'il est Dieu aussi, hein, dans le mystère de la Trinité, c'est nous adorons un seul Dieu dont la manifestation est en trois personnes distinctes, Père, Fils et Saint-Esprit. Et nous voyons très tôt dans Genèse chapitre 1 que le Saint-Esprit était là. Il se mouvait lors de la création, n'est-ce pas? Nous voyons tout au long de l'Ancien Testament la présence de l'Esprit de Dieu. Pour vous en convaincre, vous pouvez lire Juges chapitre 6, verset 34. Vous pouvez lire 1 Samuel chapitre 16, verset 13. Et bien d'autres versets qui montraient la présence, mais ponctuelle, occasionnelle. Une présence qui était dirigée pour un objectif bien précis. Après quoi, en général, le texte dit, et l'Esprit de Dieu se retira de la personne ou l'Esprit de Dieu se retira de la situation. Dans la vie du ministère de Jésus, l'Esprit de Dieu était présent aussi, n'est-ce pas? Luc chapitre 1, 30 à 37, Luc chapitre 4, 1 à 14, Actes chapitre 10, 28. On voit que lors du baptême de Jésus, la Bible dit quoi? La Bible dit qu'une voix se fit entendre du ciel, la voix du Père. Celui-ci est mon Fils bien-aimé et l'Esprit de Dieu est descendu sur Jésus sous la forme d'une colombe. La Trinité était présente. Père, Fils et Saint-Esprit. Mais il y a un changement qui s'opère. Cette promesse que Dieu avait faite, c'était que, à ce jour précis, après le ministère terrestre de Jésus, après que Jésus soit glorifié, qu'il soit assis auprès de Dieu, ça serait le temps où l'Esprit, troisième personne de la Trinité, rentrerait dans l'histoire de l'humanité pour agir de façon permanente et perpétuelle jusqu'au retour de Jésus, son second retour. L'Esprit ne descendait plus simplement sur un individu. L'Esprit ne descendait plus simplement pour une occasion précise, mais il serait permanemment présent. Comme le dit certaines publicités, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. L'Esprit est désormais disponible et disposé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Voilà ce que la Pentecôte a changé dans l'histoire de notre humanité. Dieu, le Saint-Esprit, est désormais présent depuis la Pentecôte. Mais il ne pouvait pas venir avant que Jésus ne soit parti. Et Jésus le dit dans Jean chapitre 16 que nous avons lu. Il est avantageux pour vous que je parte. Parce que dans le conseil de Dieu, Dieu est un Dieu organisé. Dieu est un Dieu stratège. C'est lui le père de l'intelligence, de la planification, de la stratégie. N'est-ce pas lui qui nous a créés? Et il sait à quel temps il marque l'événement et l'histoire de l'humanité. Et il avait décidé que Jésus, son Fils, vienne sous la volonté du Fils, mais qu'après le départ du Fils, ce sera le Consolateur, la présence de l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, l'Esprit de Dieu, ce jour, à la Pentecôte, la Bible dit, et tous les théologiens sont d'accord, la Pentecôte marque la naissance officielle de l'Église de Dieu. À la Pentecôte, l'Église de Dieu venait d'avoir sa naissance officielle. S'il y avait un acte de naissance et qu'on devait mettre la date de naissance de l'Église, la date officielle, ça serait la Pentecôte. La Pentecôte. Alors, qu'est-ce que cela nous dit aujourd'hui, après cette évocation historique et spirituelle de la façon dont Dieu planifie l'histoire des humains. Bien-aimé, tu t'appelles chrétien, n'est-ce pas? Bien-aimé, tu t'appelles chrétien, n'est-ce pas? Ça veut dire que tu es enfant de Dieu, que tu appartiens à l'Église de Dieu. Sais-tu profondément ce que veut dire l'Église? Sais-tu pourquoi Dieu, alors qu'il nous sauve et qu'il pourrait tout de suite nous faire partir au ciel, nous garde encore ici et qu'il nous rassemble dans l'Église? Et pourquoi l'Esprit de Dieu a fait cela? C'est ce que nous allons voir dans cette dernière partie de notre message aujourd'hui. L'Église est le rassemblement de tous ceux qui ont été touchés par l'Esprit de Dieu et qui ont tourné leur cœur et leur âme vers Dieu. La Bible dit que sans l'action de l'Esprit dans nos vies, nous ne pouvons pas répondre favorablement à l'appel de Dieu. C'est lui qui, par les circonstances, qui par les événements, qui par la prédication de la parole, titille notre cœur, titille notre âme et nous pousse à répondre. En tout cas, quand il le fait, il nous pousse à répondre oui. Après, nous sommes responsables de notre réponse. Pour vous qui nous suivez, pour nous qui sommes chrétiens, notre réponse a été oui. Pour ceux qui jusque-là ne sont pas encore, certains hésitent, d'autres n'ont pas encore été convaincus, certains ont dit non. Mais l'Esprit de Dieu, quand il nous bouge, c'est pour que nous puissions marcher vers la voie du Seigneur. N'est-ce pas que Dieu dit très tôt dans l'Ancien Testament, « Israël, je mets devant toi deux chemins, le chemin de la vie et le chemin de la mort. Mais ce que je te conseille vivement, c'est de choisir le chemin de la vie. » L'Église est donc le rassemblement de tous ceux qui ont choisi le chemin de la vie en Dieu. L'Église est la communion du Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui nous fait entrer dans la famille de Dieu. C'est par lui que nous sommes touchés et nous appartenons à la famille de Dieu. 1 Corinthiens 12, 13 dit, « Car c'est dans un seul esprit que nous tous, pour former un seul corps, avons tous été baptisés, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. » Il n'y a que lui. Peu importe la couleur de nos peaux, peu importe l'origine sociale que nous avons, c'est lui qui agit chez les riches, chez les pauvres, chez les modestes, chez les noirs, chez les blancs, chez les jaunes, c'est l'Esprit de Dieu. Peu importe le continent, il est Dieu omniprésent, il va partout chercher tous les enfants de Dieu. L'Église est une réalité qui transcende nos cultures, qui transcende nos frontières, qui transcende nos barrières. Est-ce que tu l'as compris cela? Parfois, il semble qu'on a quand même une vision étriquée de l'Église. L'Église, parfois, c'est notre petit truc à nous. C'est la structure de notre famille à nous. On est bien ensemble. C'est bien d'être ensemble. Mais il faut avoir la vision biblique de ce que c'est que l'Église. L'Église, c'est tous les rachetés des siècles passés, des siècles présents et des siècles à venir. Peu importe leurs conditions sociales, peu importe leur culture, peu importe leur couleur de peau. Alléluia. C'était une grande révélation au jour de la Pentecôte. Nous ne comprenons pas parce que nous sommes 2000 ans après. Mais jusqu'avant la Pentecôte, les Juifs croyaient qu'ils étaient le seul peuple élu de Dieu. Et que pour être sauvé, il fallait forcément accepter d'être juif, ce qu'on appelait prosélyte. Faire la foi des Juifs, se conformer aux traditions juives pour être sauvé. Désormais, ça a été levé tout cela. Il y a qu'en Jésus-Christ et par l'action du Saint-Esprit que nous appartenons à la famille de Dieu. Quelle promesse merveilleuse! Quelle promesse merveilleuse! Quelle promesse merveilleuse! L'Église est le peuple de Dieu. Ce n'est pas le peuple d'une église particulière. Ce n'est pas le peuple de l'église de Créteil. C'est le peuple de Dieu. Dieu en est le chef. C'est lui qui répand son esprit, selon les prophéties de l'Ancien Testament. C'est l'ensemble de tous ceux qui mettent leur foi en Jésus-Christ. L'Église, elle surgit dans le plan de Dieu. Dieu la fait surgir tout doucement depuis le ministère de Jésus jusqu'à ce que son apothéose soit à la Pentecôte. Et là, quand vous lisez le livre des Actes à partir du chapitre 2, verset 42, il persévérait dans quoi? Il persévérait dans la communion fraternelle, n'est-ce pas? Le texte est fort et c'est là la notion de l'Église. Il persévérait d'abord dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans les prières. Et chapitre 3, la mission est lancée à Jérusalem, en Judée, en Samarie et aux extrémités de la terre. Les 28 chapitres du livre des Actes montrent comment Dieu a commencé à bâtir son Église. On dit, et beaucoup de théologiens le disent, que quand on lit le livre des Actes, on a l'impression que ça finit brusquement, qu'il devait avoir encore une suite, et on reste sur sa soif. Mais d'après ce qu'on comprend, on comprend qu'en fait, le livre, la suite du livre des Actes est écrite depuis 2000 ans par l'Église elle-même. Chaque génération de chrétiens écrit la portion manquante du livre des Actes jusqu'au retour du Fils de Dieu. Parce que la mission continue. Parce que Dieu continue d'agir dans le peuple de Dieu. C'est son peuple. L'Église, c'est la famille de Dieu. C'est la maison spirituelle. C'est là que la communauté chrétienne doit vivre une relation du type qui règne dans la Trinité, dans la famille. Nous avons une notion biaisée de la famille parce que nos cultures, pour beaucoup en Occident, ont biaisé la notion de la famille. Pour se rendre compte de la notion vraie de la famille, lisons ce que Dieu dit sur la famille. C'est une relation d'amour entre parents et enfants et entre tous ceux qui vivent sous un même toit. La maison biblique, c'est pas juste papa et maman, c'est pas juste papa, maman et les enfants. La maison, la famille, c'est tous ceux qui sont sous un même toit, qui appartiennent à une même lignée. Et nous, nous sommes liés tous par qui? Par l'Esprit de Dieu, en Jésus-Christ. Et cette notion de famille, elle est importante. L'Église n'est pas un club, c'est pas d'abord une association culturelle, c'est pas d'abord un groupe de gens qui se réunissent, c'est la famille de Dieu. Il est important qu'à cette Pentecôte, que chacun de nous demande, Seigneur, si cette notion de famille n'est pas claire dans ma participation à l'Église, visite-moi en ce jour particulier et ouvre mon esprit pour que je comprenne que j'appartiens à une famille avec tout ce que cela comporte. Moi, je prie parce que cette notion, parfois, elle est à la source de beaucoup d'incompréhensions et de beaucoup de personnes qui se sentent isolées. Je prie que notre Église se laisse visiter par l'Esprit pour que cette conception de famille de Dieu soit encore plus approfondie, que nous puissions progresser dans cette conception de la famille de Dieu, bien-aimés. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. C'est une fraternité que Dieu nous attend vivre ensemble, dans les bons comme dans les moments les plus difficiles. Merci parce que nous sommes sur le bon chemin à Créteil et nous voulons continuer de progresser. La notion de famille voudrait, et je vais faire peut-être une grosse parenthèse, je le dis souvent, que nous puissions vivre des choses fortes ensemble, en famille, que nous puissions nous inviter les uns les autres. C'est pas le moment de le faire, bien sûr, mais le moment viendra. La seule chose qu'il faut se rappeler, il faut évaluer, est-ce que dans le passé, j'ai vécu l'Église comme une famille? Si je l'ai pas vécu, l'opportunité se présentera bientôt. Il faut que cette notion, tu te laisses visiter par l'Esprit. L'Église, c'est le temple de Dieu. Vous savez, la notion du temple, c'est ce lieu construit où quelque part on met en avant la sainteté de Dieu. Donc la notion du temple fait appel à la notion de sainteté. Dieu est un Dieu saint et quand on allait au temple, c'était l'image après, on devait se sanctifier, on devait se rassurer qu'on a fait tous les sacrifices nécessaires de notre purification pour qu'une fois dans le temple, nous ne soyons pas frappés parce que aucun péché ne devait rentrer dans le temple de Dieu. Et c'est fort quand même, parce que c'est cette image du temple que l'apôtre Paul prend pour dire « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, que vous êtes le temple du Saint-Esprit ?» Donc quelque part, il nous dit « Savez-vous pas que désormais, vous êtes des femmes et des hommes consacrés et que n'importe quoi ne doit pas être dans votre vie ?» Ce qui doit être dans vos vies désormais, c'est ce que Dieu aime. Je prie ce matin que Dieu me visite, qu'il te visite. S'il y a encore des choses dans ma vie, s'il y a encore des comportements, des habitudes, des pensées, des valeurs qui ne sont pas la gloire de Dieu, que le Saint-Esprit m'aide, qu'il t'aide mon frère, qu'il t'aide ma sœur, et qu'il te dise, bouge de là, sors-toi de là, parce que je veux te faire aller plus loin, tu vaux mieux que ça. Parfois on s'est figé dans des situations qui ne plaisent pas à Dieu, mais c'est comme si on n'avait pas le choix, on est resté là. Tu as le choix. L'Esprit de Dieu est disponible, mon bien-aimé. L'Esprit de Dieu est disposé. En plus, tu as l'Église. Tu as le frère et tu as le sœur pour t'encourager, pour t'aider, pour te soutenir. C'est pour ça que toutes ces notions de l'Église s'harmonisent. Tu n'es pas seul. Tu es dans la famille de Dieu. Tu peux demander de l'aide. Parce que l'aide du Saint-Esprit vient aussi par l'Église. Le temple de Dieu, c'est cette notion de sanctification, continuer à grandir dans ton rejet du péché. Se sanctifier, c'est ça, c'est fuir le péché, fuir tout ce qui est mal selon Dieu et approcher jour après jour ce qui est bien selon Dieu. Alléluia. la notion de la communauté, de la communion de l'esprit. Nous sommes en esprit. Ce matin, nous avons loué Dieu en esprit. Nous étions tous unis avec Teddy, avec Alexandra, avec Eric, unis en esprit, louant notre Dieu. Mais nous n'étions pas seuls. Partout dans le monde, à la même heure, en tout cas ceux qui sont sur le même méridien que nous, là encore, on a des frères qui sont aux Antilles, on a une sœur qui est aux États-Unis, mais ils sont en connexion avec nous au travers cette visio culte, n'est-ce pas? Et nous avons communion en esprit. Et quand nous sommes chez nous, nous communions en esprit parce que nous nous souvenons de nos bien-aimés. Parfois, Dieu met des pensées de prière pour un tel ou pour une telle. Nous sommes une église, nous sommes une communauté, nous sommes en communion avec l'esprit. C'est une notion spirituelle très forte. Nous sommes le corps de Christ. Avant d'aller à l'image, nous sommes ceux que Dieu a mis en marche dans un ordre bien organisé, n'est-ce pas? Le corps et la notion que l'apôtre Paul prend souvent, c'est regardez le corps. Il y a une tête, il y a un pied, il y a une harmonie. Il dit vous êtes un corps harmonisé. Chacun de vous a sa part à jouer. C'est ça la notion du corps. Tu es nouveau-né dans le Seigneur. Tu as, je sais pas moi, 40 ans de vie chrétienne. C'est bien. Mais chacun de nous a sa place dans la manifestation de l'Église qui est le corps de Christ. Ne dis jamais, moi je sais pas quoi faire. Ce matin, c'est la Pentecôte. Demande à l'Esprit de Dieu. Fais une prière toute simple. Seigneur, voilà, je suis chrétienne. Je m'interroge. Comment je peux aider? Comment je peux être actif dans l'Église? Comment je peux être actif dans ton œuvre? Montre-moi. Moi, je suis sûr qu'il te montrera. Maintenant, s'il te montre, obéis. C'est ça. C'est ça le truc. Souvent, il nous montre, on dit, ouh, peut-être c'est pas moi. Non. Si tu doutes lorsqu'il te montre, approche-toi. C'est la famille de Dieu. D'un frère, d'une sœur, d'un responsable. Pour qu'on chemine ensemble. Pour que ces choses soient plus claires pour toi. Et enfin, l'Église est l'épouse du Christ. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'Église est unie avec Christ. Nous avons une relation tellement forte. Nous avons une alliance avec Jésus. Une alliance qui ne peut se rompre, n'est-ce pas? C'est une alliance perpétuelle, une alliance éternelle. Comme celle qu'il a liée avec le peuple d'Israël, n'est-ce pas? Sur cette montagne. Et Jésus, pendant la scène, il a dit, ce vin est le symbole de mon sang, et ce sang est le symbole de la nouvelle alliance que je tisse maintenant avec les chrétiens. Nous sommes l'épouse de Christ. Nous sommes une église qui doit être toujours attirée par son époux. Notre époux, c'est le Seigneur Jésus. C'est pas le monde, c'est pas les modes dans le milieu chrétien, c'est Jésus-Christ. Voilà quelques notions de l'église que je voulais visiter avec vous alors que nous parlons de cette Pentecôte, de la venue de l'Esprit. L'Esprit est venu pour que l'Église soit une Église vivante, une Église dynamique, une Église où chaque chrétienne se sanctifie, où chaque chrétien est en relation les uns avec les autres dans la notion de famille, où chaque chrétienne, nous sommes en communion avec Dieu par son Esprit, nous sommes en communion les uns avec les autres par l'Esprit de Dieu, où nous sommes tous comme un corps en mouvement pour continuer de faire l'œuvre de Dieu. Car il dit, restez là, pour que l'Esprit vous soit donné. Pour faire quoi? Pour que vous soyez mes témoins. L'Église est appelée à être le témoin de Jésus. Nous, à Créteil, nous voulons continuer d'être le témoin de Jésus. Un témoin vivant, un témoin puissant, un témoin en action. Les temps vont venir. Moi, j'ai une conviction. C'est que cette pandémie a marqué durablement les esprits. Et que l'Église, bientôt, va être appelé à se mouvoir d'une façon spéciale. Et je prie que chaque chrétien de Créteil se prépare à cela. Chacun à son niveau. Les défis seront là, mais l'Esprit de Dieu est là pour nous donner la force de relever ces défis-là. Alléluia. Voilà ce que je voulais communiquer ce matin, ce que j'avais à cœur. J'aurais pu aller plus loin, mais je pense que quelquefois, c'est sage de dire, Seigneur, ce qui a été communiqué est suffisant pour que mes frères et moi-même nous allions de l'avant. L'Esprit de Dieu nous est donné pour l'Église. Nous l'avons entendu, il est venu, il est là, puissamment présent et disponible. Alors, cherchez dans vos Bibles pendant cette semaine deux aspects majeurs de la présence de l'Esprit. La Bible parle des fruits de l'Esprit. Galates chapitre 5. Regarde ces fruits-là. Regarde où t'en es dans ta vie personnelle. La Bible parle des armes spirituelles. Éphésiens. Regarde aussi dans ce texte. Et regarde où t'en es avec ces armes spirituelles. C'est mon encouragement pour toi. Je vous invite à prier ce matin. Seigneur, nous voulons bénir. Merci pour ce temps ensemble. Merci, c'est toi qui parles. Quand nous préparons ces cultes, nous disons, mais on est quand même en minorité dans ce monde. Comment? Et je regarde la Pentecôte, ils étaient que 120 dans cette chambre. Ils étaient que 120. Et à la fin de cette journée particulière de la Pentecôte, la Bible dit que tu t'as ajouté 3000 âmes. 120 personnes ont été capables, par la présence de l'Esprit, d'influencer 3000 âmes. Donne-nous d'être une église qui se laisse pousser par l'Esprit pour que ton œuvre continue de se manifester. Que des hommes et des femmes continuent d'être transformés, changés à l'image de Jésus-Christ. C'est notre prière. Béni sois-tu, notre Dieu. Amen. Amen. Je laisse à Teddy de continuer. Je reprendrai la parole tout à l'heure sous son invitation, après peut-être la prière d'Émile et les chants et pour les annonces. Que Dieu nous bénisse ensemble.